Bienvenue sur le podcast Maman Sereine de Mouvement Épanouissement. Je suis Charlène Lepage, professionnelle de la santé et de la relation d'aide. Bachelière en kinésiologie, thérapeute et animatrice certifiée de la méthode Écoute ton corps, j'inspire les femmes et les mères à s'épanouir simplement et naturellement grâce aux saines habitudes de vie et à l'attitude sereine. Si tu veux recevoir chaque nouvel épisode directement par courriel, abonne-toi gratuitement en visitant le www.mouvementepanouissement.com/podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial dans lequel j'ai le bonheur de vous présenter une amie, mais aussi une experte nutritionniste, Eva Lalonde, qui va être ici aujourd'hui pour parler de tout ce qui est nutrition avant la conception d'un enfant, pendant la grossesse, mais aussi après. Alors, on va toucher plusieurs sujets que je sais qui vous tiennent à cœur, et il va même avoir une période de questions pour ceux et celles qui veulent nous envoyer leurs questions. Si l'épisode n'a pas répondu à certaines notions ou sujets plus précis, n'hésitez pas, on est là pour communiquer avec vous et créer du contenu éducatif inspirant pour vous. Alors, sans plus tarder, bonjour Eva!
Allô Charlène!
Merci d'être avec nous en présentiel chez moi,
c'est le coup! Oui, merci pour l'accueil, je suis contente d'être ici aujourd'hui.
Merveilleux! Puis là, vous pouvez enfin mettre des visages sur la voix qui revient pour une troisième saison sur le podcast Sereine. Et ça fait...
Déjà!
Aïe!
Ça va vite!
Wouhou! Je suis vraiment contente, tu as toujours été l'experte parce que je veux quand même te mettre en lumière sur la table ton approche vis-à-vis de la nutrition que moi j'aime. Je travaille pas avec n'importe quel nutritionniste parce que j'ai eu l'expérience qu'il y en a certaines qui sont un peu plus avec une approche calorique qu'en quantitative, tandis que toi t'es plus dans le qualitatif, l'intuition, et c'est ce que moi je trouve le plus important. Donc on reste dans la santé, mais une santé qui est un peu plus intuitive, et c'est comme ça que je veux apporter la nutrition sur le podcast.
Super.
Alors, merci d'être là et de nous en donner tes lumières. Là, je t'ai fait faire des devoirs, je t'ai posé des questions un peu précises pour que tu puisses nous apporter les derniers faits saillants de la nutrition selon quand même les sources. Parce qu'on jase comme ça entre amis, entre experts, mais on veut quand même baser nos informations sur des faits scientifiques pour l'approche nutritionnelle.
Oui, on parle de grossesse.
Oui.
Aujourd'hui, fait que j'ai hâte de me lancer dans le sujet. Fait que je ne sais pas par où tu voulais commencer.
Oui, mais je veux commencer par le début. Avant même la conception d'un enfant, je ne savais pas, moi personnellement, qu'il fallait se préparer avec, quelqu'un m'avait dit, une espèce de build-up de nutriments avant la conception parce que c'est dur pour le corps de la femme, c'est exigeant, puis on va chercher toutes nos vitamines, nos minéraux pour créer un enfant et de se faire comme des réserves préconception. J'ai entendu dire que 3 mois avant la conception, on pouvait commencer à prendre certains suppléments. Qu'est-ce que la science nous dit sur ça?
Donc, c'est sûr qu'on veut arriver prête pour la grossesse, on veut être en bonne santé, on veut manger équilibré en général. Fait que c'est bon de faire les premiers pas même avant la conception. Mm-hmm. Ceci dit, spécifiquement, il y a l'acide folique qu'on veut faire très, très attention. On conseille 3 mois en avance parce que dès le début, les premières semaines de conception de l'embryon, ils ont besoin de plus d'acide folique pour créer un bon, c'est au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cerveau, du bon développement de l'enfant. On a besoin de plus d'acide folique, fait que d'aller le chercher là, avec un supplément, c'est toujours conseillé. Puis même, je te dirais, on le conseille à toutes les femmes qui sont en âge d'avoir un enfant. Même si, tu sais, il y a contraception, etc., au cas où il y aurait une grossesse imprévue, on est couverte. Parce que si on attend de savoir qu'on est enceinte, malheureusement, il est un petit peu trop tard déjà pour aller chercher cette vitamine-là.
D'accord. Puis ça, c'est une vitamine qu'on retrouve dans des suppléments prénataux traditionnels, en vente libre, en Jean Coutu, en pharmacie traditionnelle.
Okay. Exactement. C'est sûr que tu peux aussi avoir juste de l'acide folique. Okay. Moi, je me prends un exemple. Okay? Moi, je suis épileptique. Mon médicament fait que mon acide folique est un petit peu plus difficile à absorber. Alors, j'ai un supplément déjà d'acide folique, juste pour me protéger en plus comme backup. Fait qu'on peut juste prendre l'acide folique, mais honnêtement, de prendre des prénataux en général, l'acide folique va déjà être dedans.
Merveilleux. Fait qu'on prend nos multivitamines en prévention 3 mois avant la conception. Et là, surprise, nous sommes enceintes. À ce moment-là, je sais qu'il y a plusieurs mamans qui se posent des questions parce que quand on n'a pas d'entourage immédiat qui ont eu des enfants, c'est quand même une surprise d'aller voir toutes les restrictions qu'on a au niveau alimentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de mythes, mais aussi des vraies choses par rapport à ce qu'on ne devrait pas manger enceinte. Qu'est-ce que tu nous conseilles? C'est quoi les grandes lignes quand on sait déjà que on est enceinte et qu'il faut commencer à faire attention à ce qu'on consomme.
Bon, OK. Fait que premièrement, on a parlé de la multivitamine qui va juste venir nous donner un petit peu plus. Hein, ça nous couvre, ça couvre nos arrières, comme on dit, au niveau de l'acide folique, il y a le fer aussi, il y a certaines autres choses qu'il faut faire attention. Au niveau de l'alimentation, OK, j'aime commencer par, on a une alimentation normale, même quand on est enceinte. Donc, on va promouvoir les mêmes choses que monsieur, madame, tout le monde. On parle de l'assiette équilibrée, souvent. Donc, il y a le nouveau guide alimentaire canadien là, qui est assez facile à voir. Là, la moitié de l'assiette, c'est des légumes, des fruits. On a nos protéines, on a nos produits plus céréaliers, à grains entiers. Si on peut, pour aller chercher plus de fibres, on va en parler un petit peu plus tantôt là, au niveau des fibres. Donc, on commence par avoir une belle alimentation en général. Trois repas équilibrés, des collations au besoin. Donc, si on a faim pour... Ceci dit, OK, une fois que ça s'est placé, oui, il y a certaines choses qu'il faut faire un petit peu plus attention. La façon que j'aime le dire, dans le fond, c'est qu'on veut éviter les intoxications alimentaires. OK, c'est surtout ça. Donc, on va faire attention à tous les aliments qui pourraient être un petit peu plus dangereux à ce niveau-là. Tout ce qui est semi-cuit, donc du poisson, là, comme du sushi, qui serait... qui n'est pas cuit, là, on s'entend, qui serait cru. La viande, tu sais, un steak rouge, là, on va éviter ça quand on est enceinte. Des produits qui auraient des œufs crus aussi. Il y a un petit peu plus de chances d'avoir une intoxication alimentaire. Entre autres, la pâte à biscuits. Je suis la première des fois à me faire des biscuits, puis j'en mange un petit peu. L'œuf est cru, la mayonnaise, ces choses comme ça qu'il faut faire attention à la mayonnaise qu'on fait à la maison. Ouais, ouais. Là. Bon, on va faire attention à ce genre de choses-là. Pour pousser un petit peu plus loin, c'est sûr, il y a le fromage, certains fromages qu'il faut aussi éviter, là, surtout à pâte molle, tout ce qui serait produit laitier qui n'est pas
pasteurisé,
merci pour le mot. Donc là, on a un petit peu plus de risque. Au niveau aussi juste la salubrité alimentaire. Fait qu'au niveau des fruits et légumes, on n'en évite pas. Ce qu'on veut faire, c'est faire attention qu'ils soient bien lavés. Donc, on va frotter avec une brosse nos fruits, nos légumes pour s'assurer qu'on n'ingère rien qui est mauvais pour la santé. Sinon, au niveau, bon, les poissons. OK, les poissons qui, des fois, sont un petit peu controversés. On en a besoin. En fait, quand on est enceinte, on a besoin de beaucoup d'oméga-3. OK, ça va aider au niveau du développement du cerveau du bébé. Fait qu'on ne veut pas éviter le poisson. J'entends souvent les femmes qui me disent « Ah, le poisson! » Non, non, on en veut. Ceci dit, il y en a certains qu'il faut faire un petit peu plus attention. Parce qu'ils ont plus de mercure. Donc, le mercure qui peut être un danger au niveau du développement, si je ne me trompe pas, c'est plus au niveau cérébral là, de l'enfant, de la femme aussi, dans trop grande quantité, les humains en général. La meilleure façon de se rappeler lesquels faire attention, c'est les plus gros poissons. Okay? C'est comme la chaîne alimentaire. Plus le poisson est gros, plus il a mangé d'autres poissons, plus il a accumulé de mercure dans son système. Le requin étant le summum. Fait qu'on va éviter de manger du requin, du thon. Aussi, le thon, des fois, on n'y pense pas parce que ça vient en canne souvent, mais c'est un gros poisson dans l'eau. Fait que certains thons qu'on va faire attention, même en conserve. Fait que le thon blanc, qu'on va faire plus attention. Le thon pâle, lui, qui est une autre sorte de thon, ça, il n'y a pas de restriction dessus. Okay. Fait que si on est amateur de thon, on peut plus aller vers celui-là, le pâle et non pas le blanc. C'est mélangeant, mais pâle versus blanc. Fait qu'au niveau du poisson, c'est plus vers ça qu'on ferait attention. Puis là, je voulais dire aussi, parce que j'ai vu ton beau jardin, Charlène, dehors.
Mon potager.
Oui, le potager qui est superbe. Des fois, on n'y pense pas. Des fois, il peut y avoir des bactéries aussi au niveau du jardin. Fait que de porter des gants quand on est enceinte, quand on jardine, super important. Puis pousser un petit peu plus loin, là, on sort de l'alimentation. Mais au niveau, mettons, si on a un chat, quand on fait la litière, ce genre de choses-là, il faut absolument mettre des gants, prendre des précautions. Puis si on peut, demander à quelqu'un d'autre là, de le faire pour nous. Je pense que ça fait le tour, là. Je ne sais pas si j'en ai oublié quelques-uns, ça se peut. Les germes, ah oui, les germes crus aussi. Fait que quelque chose qu'on mettrait là, sur une salade, ça, on l'éviterait. Des aliments prêts à manger aussi, à l'épicerie.
Oui, ça j'ai entendu, parce que des fois, il y a une date d'expiration ou des manipulations qu'on ne peut pas certifier là, la qualité, la fraîcheur.
Oui. Si on ne sait pas combien de temps ça fait qu'il est dans le, dans le comptoir. Fait qu'au niveau de la température, un petit peu plus de chances de développer des bactéries. Fait qu'on va faire attention à ce genre de choses-là. À première vue, ça en fait beaucoup. Okay? Fait que je ne m'attends pas à ce que tout le monde se rappelle de tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Santé Canada, carrément. Des guides de grossesse, là, ça vous explique tout ça. en plus de détails. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, c'était un long spiel de 5 minutes juste là-dessus. Mais en même temps, une fois, on s'habitue. Hein? Au début, il faut regarder un petit peu plus, mais plus la grossesse va, plus on prend l'habitude de « OK, qu'est-ce que j'achète à l'épicerie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse un petit peu plus attention? » La dernière chose que je dirais, bon, ben, il y a l'alcool aussi. L'alcool, des fois, c'est controversé. J'ai souvent entendu des femmes, ben, certains trimestres, peut-être un peu de vin. Non. OK, on essaie de l'éviter si possible. Il n'y a vraiment aucune étude qui en ait montré qu'il y avait un niveau qui était sécuritaire. OK, fait que pour l'instant, c'est zéro alcool si possible. Puis au niveau de la caféine, là, on peut en prendre. OK, fait que c'est pas zéro, mais on va se limiter à peu près à 300 mg par jour. Fait qu'on parle d'à peu près 2 cafés. Pas des cafés du Starbucks, 2 cafés, fait que 2 tasses. Y en a aussi, mettons, dans le thé, le chocolat aussi. Fait qu'il y en a un petit peu. On peut en manger du chocolat, on veut juste faire attention que ça s'accumule pas dans la journée. Boissons énergisantes, les Monster, les Red Bull, ça on m'incroit là-dessus. Pendant la grossesse, on essaie de mettre ça de côté si possible. Tisane. Ah oui, celle-là, à chaque fois que je la vois, ça me revient. Pas tous. Il y a certaines tisanes qui sont tout à fait correctes. Entre autres, le gingembre. Fait qu'une tisane de gingembre, des fois, ça peut même aider avec la nausée. Mais celle qui me fait tout le temps un peu sursauter, c'est camomille. Tu sais, on pense, on veut relaxer, un petit peu de camomille. C'est déconseillé pendant la grossesse. Okay. Il y en a certaines autres aussi là, qu'on veut faire attention. Fait que, comme je vous dis, vous pouvez aller voir la liste plus exhaustive sur Internet. Puis le dernier petit truc que j'ajouterais peut-être, c'est les substituts de sucre. Fait que tout ce qui est les coques diète, même je vous dirais, tu sais, les bartendes, des fois bartendes protéinées ou des choses comme ça, qui ont des substituts de sucre. Il y en a certains qui sont sécuritaires, sucralose, aspartame, mais en petite quantité. Okay. Fait que c'est pas des aliments qu'on va conseiller d'emblée. On veut aller chercher l'énergie qu'on a besoin. Fait qu'on va aller vers un aliment qui est un petit peu moins transformé en général. D'un autre côté, il y en a qui sont complètement évité, entre autres les sugar twins, là, surtout les petites affaires qu'on met dans les cafés, ça, on fait attention. Donc, il y a des études qui démontraient que ça serait peut-être problématique là, au niveau de la grossesse. Je vais prendre de l'eau.
Mais c'est important parce qu'il y a plusieurs éléments, puis on vient de faire le tour, une liste assez exhaustive de tous les aliments à faire attention, puis je trouve ça important parce que comme moi peut-être, il y en a peut-être qui vous ont surpris, que je n'étais même pas moi consciente que ça existait, donc merci de nous avoir fait le lien. Puis ce que j'aime, c'est que tu as commencé en disant les suppléments prénataux qu'on prend, c'est bien. Par contre, ça ne remplace pas une saine alimentation équilibrée. Donc, on continue à manger sainement. Puis moi, j'aime bien la phrase qui dit « Enceinte, on mange pas pour deux en quantité, mais en qualité. » Et ça m'a fait sourire quand j'avais entendu ça, me dire « OK, ben je veux vraiment redoubler d'ardeur pour manger des fruits, des légumes. » Au début, ça allait bien. Par contre, après, j'ai eu des aversions alimentaires. Donc, des fois, on a des cravings, hein, des choses, des aliments qu'on veut, mais parfois, on a des aversions alimentaires. Donc, par exemple, le poisson, moi, ça a été un long catégorique. J'en voulais plus, pourtant, j'en mangeais avant, mais là, ça rentrait pas du tout. Et ben, à ce moment-là, ben, j'ai pris des suppléments d'oméga 3 pour compenser tout ça. Mais c'est aussi à prendre en compte parce que ça le fait. Les hormones font plein de choses dans notre corps et on a des nouvelles envies, d'autres des nouvelles aversions qu'on n'a pas à gérer qui peut faire. Moi, on m'avait dit fais attention parce que si tu as des aversions sur différents aliments que tu es habitué de consommer, ben ça se peut que si tu fais juste les couper, tu manges de moins en moins varié. Donc, d'essayer d'aller chercher d'autres sources aussi pour rester bien alimenté malgré les nausées. C'est quand même un très grand défi dans le premier trimestre, les nausées pour les femmes. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager en sachant que soit, ben il y en a qui vont jusqu'à des vomissements, hein, qu'on perd une quantité d'alimentation par les vomissements, ou d'autres fois, c'est juste des aversions alimentaires qui fait qu'on a de la misère à manger de façon saine. Et je me rappelle, dans mon premier trimestre, il y a un moment où est-ce que je mangeais que des soupes Lipton parce que c'est la seule chose qui rentrait, ce qui n'est pas très nutritif. Mais tu m'avais dit même de racheter un œuf dans ma soupe Lipton pour essayer d'avoir des protéines, ce que j'ai fait.
Ça a passé.
Mais c'est un défi quand même dans un début de grossesse. Qu'est-ce que, du point de vue nutritionnel, tu pourrais apporter comme commentaire sur ça?
Ben, premièrement, j'ai aimé ce que tu as dit. T'sais, tu disais que ce n'est pas nécessairement deux fois plus. Souvent, on l'entend, on mange pour deux. Moi, j'avais entendu que ce n'est pas deux fois plus, c'est deux fois mieux. Okay? Fait que c'est une autre façon de le dire, mais je pense que ça reste bien dans la tête comme ça. Au niveau des nausées, ce genre de choses-là, c'est pas facile, OK? Mm. Une des choses qui revenait souvent, c'était même d'aller chercher, tu sais, l'aide qu'on a besoin au niveau de notre stress, parce que le fait d'être stressé, d'être fatigué, ça peut augmenter les nausées. Non, fait que c'est d'aller chercher de l'aide au niveau des psychothérapeutes, des choses comme ça aussi, là. Fait que ça, je voulais juste faire une petite note là-dessus.
Ouais, c'est bien.
Sinon, OK, première chose... des fois, on a des aversions alimentaires, fait qu'on va couper certains aliments. De faire un petit peu comme tu as fait, de voir, OK, cet aliment-là m'apporte quoi dans mon alimentation? Est-ce que je peux le remplacer par autre chose qui m'amènerait la même chose ou sinon aller prendre un supplément? OK? Ceci dit, là, tu sais, si tu as, je sais pas moi, quelques semaines où tu manges un petit peu moins de qualité, il y a certains repas qui sont un petit peu plus, bon, des aliments plaisir parce que tu as une aversion à ce qui serait plus équilibré. C'est pas un repas ou même une journée là, qui va faire la grosse différence et qui va faire que la grossesse va être finie. Là. Okay? Fait que peut-être de se calmer à ce niveau-là, un petit peu comme tu as fait avec ta soupe leptine. C'est ce que tu étais capable de manger. Exactement. Au moins, tu te moussais, tu avais de l'eau là-dedans, tu prenais un petit peu de sel. Il y avait quand même des glucides avec tes pâtes. Tu as rajouté l'œuf pour aller chercher tes protéines. Fait que tu as trouvé une façon de le détourner. Tu continues à prendre tes multivitamines aussi. Fait que tu étais couvert, puis ça a fini par passer.
Exact.
OK? Ouais. Je pense qu'un point important aussi à amener au niveau des nausées, c'est très fréquent. OK? C'est la majorité des femmes. Ceci dit, il y en a que c'est beaucoup plus. Donc, au niveau des vomissements, des nausées, n'hésitez pas à aller voir votre médecin par rapport à ça. Il y a des médicaments pour ça aussi qui sont vendus puis qui aident. OK? Il y a des choses comme, je parlais du gingembre, fait que des capsules de gingembre, des choses comme ça. Vous pouvez aller voir le pharmacien, il peut vous conseiller par rapport à ça. Sinon, juste, c'est des infusées de gingembre. C'est un petit peu plus difficile à doser, mais ça, des fois, ça fait une différence. OK? Fait que n'hésitez pas à aller demander de l'aide, parce que des fois, c'est des cas extrêmes, puis là, il faut carrément avoir une équipe médicale là, pour vous aider. Ceci dit, côté nutrition, fait que je reviens plus dans ma zone. Les trucs qui revenaient le plus souvent, là, OK? Ça semble un petit peu contre-intuitif, mais ils disent d'éviter de rester longtemps sans manger. OK? Fait que le fait d'attendre très longtemps sans manger, parce qu'on n'a pas vraiment envie, ça peut amplifier, en fait, la nausée. Fait que essayer de manger quand la faim est un petit peu plus présente, ça peut aider à calmer le tout. OK? Ah oui, celle-là, je l'avais bien aimée. Fait qu'il disait des fois, le matin, de manger légèrement, comme une petite toast, quelque chose comme ça, dans le lit. Avant même de se lever, fait qu'on nous demande à notre partenaire d'aller nous faire une toast, des petits craquelins, de le manger, ça nous calme. On attend une quinzaine de minutes, puis après ça, on se lève. Fait que ça pourrait faire une différence. Manger des aliments dont on a envie avant de manger un autre repas. Donnez l'exemple, manger comme des chips ou quelque chose comme ça, là, que vous avez envie. OK, c'est un aliment plus plaisir, moi j'aime ça les appeler comme ça. Des fois, ça calme l'estomac, puis après ça, on est capable de manger quelque chose de plus équilibré. Fait que ça, je trouvais que c'était un bon truc. Éviter que les mets qui sont plus épicés, les fritures, le gras. Fait que ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus difficiles en général au niveau de la digestion. Au niveau du gras, t'sais, c'est sûr, ça ralentit automatiquement la digestion. Fait que ça va rester plus longtemps dans le système digestif. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter ce genre de choses-là. Ça remonte un petit peu plus facilement. Fait que ça peut être des choses à faire attention. Faire attention aux odeurs. Tu parlais du poisson. Des fois, c'est pas le goût du poisson. Des fois, c'est l'odeur du poisson. Fait que d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir la hotte, peut-être partir pendant que la personne le prépare, puis juste le manger une fois qu'il est sur la table. Des fois, l'odeur est un petit peu moins pire. Fait que ça peut être un bon truc.
Mais c'est vrai parce que moi, cuisiner me levait le cœur au plus haut point, mais si on a un repas déjà prêt, je peux le manger. Mais il ne faut pas que ce soit trop de stimulation en même temps, c'est le fatigue, sinon il n'y a rien qui rentrait, donc là, ça fait du sens.
Tu sais, un peu de pratique aussi là-dessus, là. Tu essayes quelque chose, ça ne marche pas, hop, le lendemain, ben, fais-le, ou réchauffe-le au micro-ondes, tu me l'amènes, je suis capable de le manger, peut-être la moitié de l'assiette. De le remettre. C'est pas hésiter aussi de manger peut-être plus fréquemment à travers la journée, comme je disais tantôt. Au pire, tu manges ton repas, tu le laisses, tu le mets au frigo, tu le réchauffes, puis tu le finis plus tard. Et ça te fait un repas complet en même temps, là, quand même. Faire des siestes, fait que la fatigue peut vraiment augmenter les nausées. Je sais pas, Charlène, toi, si t'as vu une différence, là.
Ah ben oui, en fait, oui. Puis, mais je dormais tout le temps, premier trimestre. J'ai eu des semaines de siestes et de dodo qui étaient... Puis tu sais, ce que tu dis, c'est... Oui, on l'explique, mais c'est tellement instinctif. Tu vomis une fois du beurre de peanut, là. Après, t'en remanges plus, là. Tu sais, c'est... On comprend que le corps gras passait pas. Tu sais, c'est vraiment... On apprend. J'avais mangé une fois du Thai Express. Ça a pas passé. Je me suis dit, pu de ma grossesse et comme de fait, je n'ai pas encore mangé depuis.
Association négative.
Oui, c'est ça. Parce que ton corps le détecté que le gras était plus difficile à digérer. Même chose, c'est le café, on dit d'en prendre moins. Ça donne tellement de brumes d'estomac quand t'es enceinte que instinctivement, tu consommes même pas tes deux tasses proposées
voilà,
par le
gars. Tant mieux.
Fait que tu sais, on en parle, ça a l'air comme très factuel, mais quand tu le vis, c'est quand même assez instinctif que le corps va aller chercher justement, puis t'as des biscuits soda pour. Moi, je me levais la nuit pour manger. Donc, des bartons, du yogourt, ce qui rentrait, je le donnais à mon corps. Puis des fois, ben, je me suis alimentée une journée entière de bartons et de yogourt, mais j'ai survécu, puis Clara est en santé. Fait que, on passe par-dessus.
C'est un peu de déstresser le tout aussi. Là. Je pense pas que c'est juste ça. C'est sûr, au niveau hormonal, etc., ça peut créer les nausées, mais juste le stress d'être enceinte. Oui. Le corps, il vit des grandes émotions en même temps. Fait que de se donner une chance. Là. Puis tu disais quelque chose d'intéressant, où des fois, tu te levais la nuit, t'avais faim. Oui. T'allais manger. Okay? C'est intuitif quand même. Et des fois, les gens vont dire, mais là, si je me lève en plein milieu de la nuit puis je mange, je suis pas intuitif. Non, non. Ton corps a faim et tu manges, c'est intuitif. Tu réponds aux besoins de ton corps. Puis ce que je dis souvent à ma clientèle en général, là, pas juste mes femmes enceintes, c'est qu'on est souvent pris dans un horaire alimentaire où on se dit, il faut que je mange à 8 heures mon déjeuner, il faut que je dîne à midi, il faut que je soupe à 6 heures. Non, non, c'est pas l'heure à laquelle tu manges qui est importante, c'est la distance entre tes prises alimentaires. Mm. Parce que je veux dire tes repas puis tes collations. Mm. Fait que de se permettre d'avoir une fluidité là-dedans, puis ça, c'est que tu déjeunes pas avec ton chum ou avec ta blonde cette journée-là, car c'est comme ça.
Puis les partenaires deviennent vraiment importants. Mm. On dit souvent que les conjoints se sentent impuissants par rapport à la grossesse et tout ça. On peut les mettre en contribution. Le nombre de déjeuners, dîners qui m'ont été cuisinés durant la nuit parce que j'avais tellement mal au cœur. Je réveillais mon chum, j'étais comme Simon, je veux deux bagels, beurre, fromage à la crème avec un verre de lait au chocolat puis des fraises. C'était très spécifique à ce que je voulais. Puis je me recouchais parce que je me sentais malade. Je me rendormais puis il venait me réveiller. Je mangeais les yeux fermés parce que j'étais trop fatiguée, mais je me rendormais puis je me sentais mieux. Donc la contribution des partenaires, je pense qu'elle est vraiment importante. On parle du premier trimestre pendant que c'est plus difficile, mais ça va jusqu'au dernier trimestre parce que même moi, au troisième trimestre, ou même le quatrième, on va en reparler du quatrième trimestre, mais après, quand on allait, notre dépense calorique monte, notre métabolisme monte et je n'ai jamais autant mangé de ma vie, beaucoup plus que même enceinte. Et on va en reparler, mais encore aujourd'hui, ça m'arrive de réveiller mon conjoint pour me dire « va me faire deux toasts, beurre d'arachide avec une banane ». Puis là, vu qu'il n'y a plus d'hormones dans mon corps de grossesse, le beurre d'arachide revient comme un supplice.
Une chance.
Mais en fait, c'est ça, de contribuer à l'aide du partenaire justement pour aller cuisiner. Puis si votre conjoint ne cuisine pas, comme c'est le cas avec le mien, j'avais des demandes spéciales d'aller me chercher de la nourriture spécifique. Donc, par exemple, d'aller chercher du Copper Bench, pour moi, c'était ça. J'avais envie de légumes, de différentes textures, de vitamines, tout ça, mais les cuisiner, c'était impossible pour moi. Donc, des plats congelés de traiteurs maison, des choses comme ça. Encore là, moi, je ne dirais jamais assez, mais la meilleure aide qu'on peut donner en tant qu'entourage, avant, pendant, après une grossesse, ça reste de cuisiner pour la famille parce que, oh mon Dieu, on en a tellement besoin. Même quand le bébé est né, on n'a pas le temps de cuisiner, donc vraiment, c'est un très beau cadeau à offrir. Fait que ça, c'était plus par rapport aux nausées, on parle du premier trimestre, mais j'aimerais ça qu'on parle dans le troisième trimestre, il y a un autre défi, qui est la perte d'appétit. Moi, je l'ai eu très, très fort, ça. Le bébé est tellement grand qu'il écrase complètement mon estomac. Je n'ai plus l'hormone de l'appétit. Ça disparaît de mon corps. C'était un défi manger, j'avais pas envie, qui était complètement l'opposé de ce que j'avais vécu dans d'autres parties de mon deuxième trimestre, par exemple. À ce moment-là, c'est un défi parce qu'il faut avoir un apport calorique pour que notre bébé continue à se développer et à prendre un bon poids. J'ai même peut-être eu l'hypothèse que Clara est sortie de mon corps 10 jours après sa date parce qu'elle devait continuer à prendre du poids, puis qu'elle est quand même née à 7 livres, qui a un poids normal, mais 10 jours après. Donc, ça était venu à 37 semaines, elle aurait été vraiment tout petite. Donc, c'est important pour le bébé d'avoir un bon poids. Et moi, je l'ai vu, j'avais perdu du poids même un petit peu après les fêtes parce que c'était difficile pour moi
dans
de manger.
Dans ton troisième trimestre.
Dans mon troisième trimestre, j'avais perdu du poids, ce qui était... C'était pas alarmant en restant les fourchettes santé, mais là, la sage-femme était comme, ah ouais, des smoothies, puis des ensures si besoin, donc des repas liquides pour vraiment, avec là, des petites portions souvent, pour me permettre de continuer à avoir un apport calorique. Mais qu'est-ce qu'on fait justement dans le défi de... C'est-tu normal que quand le bébé écrase, qu'est-ce qui se passe dans le corps pour ne plus sentir l'appétit?
Ben écoute, honnêtement, j'ai pas vu tant de détails de pourquoi ça arrive. Okay. Puis ça semblait pas être si fréquent que ça dans le troisième trimestre, dans les choses que j'ai vues. OK.
Je suis l'exception qui fait la règle.
Probablement pas. OK. Fait que okay. Ça prend vraiment juste tomber que je suis pas tombée sur l'information okay. par rapport au pourquoi, là. J'ose dire que c'est vraiment comme tu dis qu'elle pesait sur, sur toi. Le manque d'appétit, honnêtement, dans ce que j'ai vu, il venait plus au début, dans le okay. premier trimestre.
OK.
OK. Dans le troisième, mais c'est sûr, elle devient lourde aussi, probablement la fatigue qui embarque, etc. Fait que le pourquoi du comment, on demandera à quelqu'un d'autre. Il doit avoir une raison, là, c'est sûr et certain que t'es pas la seule femme dans la vie qui a vécu ça. Ceci dit, ce que t'as fait, c'était les bonnes choses, là. OK? Fait que de profiter de ta faim quand elle était présente, fait que les petits moments où elle était, se permettre de manger peut-être 6-8 fois par jour, mais des plus petites quantités parce que t'étais vraiment remplie plus rapidement. OK? D'aller vers le liquide, en général, ça marche bien quand on a moins faim. Fait que les smoothies, comme tu as fait, s'assurer d'avoir une belle protéine dans ton smoothie quand même, si possible, de lait de soya, des yogourts grecs, des choses comme ça. Ça peut être important pour que ça soit quand même assez plus nutritif. Soutenant, ouais. Ceci dit, les ensures, les boosts, ce genre de formules-là sont faites pour ça.
Fait que okay. des boissons protéinées qui ont
remplacent
un
le repas. Okay. Oui, ça, on les trouve un petit peu partout, en pharmacie, Walmart, mais ça se trouve un petit peu facilement, là, OK? Fait que pas hésiter à faire ça si vraiment, là, t'es pas capable de te nourrir au niveau alimentaire. Peut-être aussi augmenter la densité calorique dans la mesure du possible de ce que tu manges. C'est sûr que quand je parle de densité calorique, c'est le nombre de calories que tu manges par bouchée, avec le gras étant celui qui a le plus de densité calorique. En même temps, là, si t'avais une aversion un petit peu plus au gras, ça devient un petit peu plus un casse-tête. Ouais. Mais si t'es capable, dans ton smoothie, de t'ajouter des noix, peut-être des graines, du beurre d'arachide, des choses comme ça, c'est une façon d'augmenter l'énergie qu'il y a dans ce que tu viens de consommer de façon un petit peu cachée, là, si on veut. Fait que moi, ça, en gros, nutritionnellement, c'est ce que je te dirais. Ouais. Le pourquoi du comment, je sais pas.
Mystère.
Ben, ça doit pas être un mystère, ce mystère, pour moi, en ce moment.
Ça peut être mécanique aussi, juste l'espace de l'estomac qui est rapetissé, puis la sensation de pleine déjà.
Ça rend plus. Ouais. Okay. Au niveau des hormones aussi qui vont jouer, au niveau de l'appétit. Mais encore là, ce que j'ai vu, c'était plus au niveau du premier trimestre.
Bon. Donc, ça peut arriver ou pas, mystère. Ça m'amène aussi à parler du quatrième trimestre. On en parle peu, c'est nouveau comme approche, mais c'est-à-dire après la naissance du bébé. On est catapulté dans un autre univers qu'on était. Tu sais, souvent, on se prépare super gros pour l'accouchement, pour la grossesse, mais le après, on a comme plus de jus pour s'y préparer. Puis finalement, ça arrive, puis c'est quand même un trimestre très, très important qui vient avec d'autres défis au niveau de l'alimentation. Le premier, qui est suite à l'accouchement, moi, je le savais pas, mais faut faire attention parce que les intestins ont été comprimés durant toute la grossesse, donc 9 mois de compression.
Et là, le bébé prend de la place, hein?
Ah ben oui. Et là, quand le bébé sort, tranquillement, les intestins vont pouvoir redescendre. Par contre, c'est un processus qui est un peu plus lent. Il faut faire attention, s'assurer qu'on ait assez de fibres pour pas tomber dans la constipation, qui est normale un petit peu après l'accouchement. Et ce qui est vraiment, vraiment important, c'est qu'on ne pousse pas pour aller à la selle, parce que le périnée a besoin de récupération. Le périnée, c'est comme le plancher qui vient soutenir autant le vagin que le rectum. Donc, il faut vraiment faire attention de manger beaucoup de fibres, boire beaucoup d'eau et même faire attention de, si besoin, d'avoir des suppléments au niveau des fibres là, qui vont nous aider avec plus laxatif. En parler aussi avec son médecin, c'est pas normal d'avoir mal au ventre quand on va à la selle, donc vraiment faire attention. Je sais que c'est comme un peu tabou, on n'en parle pas, mais la note à garder en tête, c'est que si vous accouchez, vous ne devez pas pousser démesurément parce que la constipation va être un peu plus normale vu que le péristaltisme des intestins, donc le mouvement de massage, des contractions de l'intestin pour aller déféquer est au ralenti vu que ça commence à reprendre sa forme. Le cadeau que moi je vous propose à ce moment-là, c'est d'aller faire une séance avec une physio spécialisée dans le plancher pelvien. Vraiment, ça a été pour moi une grande différence. Pas parce que j'avais nécessairement des problèmes, mais juste pour s'assurer aussi que le retour au sport se fasse bien, etc. Je vous le conseille fortement. Donc, c'était un défi quand même que je voulais apporter par rapport au quatrième trimestre qui m'amène à mon prochain sujet qui est l'allaitement. Il y a parfois des femmes qui ne peuvent pas allaiter, qui ne veulent pas allaiter, ou comme moi, qui choisissent d'allaiter, qui est une grande aventure. On va avoir un épisode juste sur l'allaitement, mais je voulais quand même qu'on touche des mythes par rapport à ça, parce que quand j'ai commencé à allaiter, je me suis dit, là, je suis plus enceinte, mais y a-t-il des choses que je ne dois pas manger, continuer à manger? Qu'est-ce qui se passe avec l'appétit qui a monté en flèche? Moi, le contraste est frappant entre l'accouchement et le après, à quel point j'avais faim puis je voulais manger. Qu'est-ce qui se passe dans le corps aussi au niveau dépenses caloriques, dans le métabolisme, quand on allaite ou pas? Je te laisse nous partager un petit peu les grandes lignes sans rentrer trop dans les détails, vu qu'on a un épisode sur ça.
Parfait. OK. Fait que tu as amené un bon point. Aussi, on n'avait pas parlé d'eau à date. Hein? Fait que tu parlais de constipation, etc. Honnêtement, la constipation, souvent, elle commence pendant la grossesse. Mm. OK. Fait que de s'assurer de bien s'hydrater, les besoins en eau, en fait, ils augmentent hein, pendant la grossesse, puis encore plus au niveau de l'allaitement. Sans dire de compter vos litres, là. C'est pas ça le but. Hydratez-vous régulièrement à travers la journée quand vous pouvez, des petites gorgées d'eau tout le temps. Idéalement, plus de l'eau versus du jus, mm-hmm. des choses comme ça. On va essayer d'en faire la boisson primaire, là, mm-hmm. okay, pendant notre grossesse, pendant la vie en général.
J'adore.
Juste comme ça. Hein.
En passant, hydratez-vous bien.
Tu sais, au niveau des fibres, c'est important, autant pendant la grossesse, après aussi, comme tu disais plus spécifiquement, là, parce qu'on peut pas pousser, surtout là, une fois que le bébé est sorti puis qu'on commence à allaiter, etc. Fait que les fibres qu'on va aller chercher plus au niveau des légumineuses, des noix, les produits céréaliers, les prendre à grains entiers quand on peut. Fait que, bon, le classique, le pain brun versus le pain blanc. Okay? Fait que de s'assurer d'avoir ça dans notre alimentation, ce qui se fait naturellement, légumes et fruits, si on fait l'assiette équilibrée. Okay? Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je vous encourage tous à aller voir le nouveau guide alimentaire canadien qui sort, je pense, en 2019. C'est une assiette, là, mm-hmm. c'est facile à visualiser. On peut voir est-ce que mon assiette est adéquate ou pas, qu'est-ce que je peux ajouter, etc. OK? Fait que ça, généralement, dans l'allaitement, on continue cette belle alimentation avec, oui, peut-être un petit peu plus d'eau et probablement plus de nourriture, point. OK? Comme tu disais, les besoins caloriques augmentent, c'est entre 300 puis 1000 calories par
c'est
jour.
C'est immense, là. De c'est plus. Immense. Parce qu'un métabolisme de base, tu sais, exemple, une personne, une femme normale comme moi, dépense combien de calories par jour juste pour vivre puis me déplacer un petit peu, là?
Pour vivre et te déplacer.
OK, on recommence. Mon métabolisme de base, juste pour respirer puis être vivante.
Dans c'est... un coma, là.
Oui, exemple.
Et je te dirais entre 1300 et 1600 calories pour une femme, là. Tout dépendant de ta musculation, etc.
Ça, je bouge pas. Je fais juste vivre. Ouais. Ça, c'est le nombre de calories que mon corps dépense. Ouais. On va dire 1500 environ. Ouais. Et là, si je me mets à vivre, à ouais. bouger, à respirer, ben pas à respirer, mais à bouger, à me promener dehors, pousser le carrosse, prendre
on
mon bébé.
On s'en va vers le 2000.
Vers le 2000 calories, puis là, si je fais du sport, ça peut monter encore plus. Fait que là, on se dit, on a un métabolisme de base, ben quotidien, on va dire ça. Un métabolisme quotidien dans la journée, environ 2000 calories. Environ. On met ça un gros, gros général. Ouais. Fait que c'est presque la moitié de plus, ça peut aller de 300 à 1000 calories. C'est immense. Ouais. Alors, c'est pour ça que je mange deux fois plus, sinon trois fois plus que d'habitude.
Ouais, fait que pas hésiter, tu sais, prendre tes trois repas, s'assurer que ce soit bien, peut-être s'ajouter un petit peu d'énergie, de densité calorique, comme je disais, un petit peu plus de gras, des bons gras, des avocats, les noix, ce genre de choses-là, mais aussi se permettre de prendre des collations. OK? Ouais. Fait que trois collations, deux, trois, selon ton besoin, ta fin de la journée. Mm-hmm. Manger entre quand t'allaites. OK? Fait qu'il y a une question de timing aussi avec ça. Peut-être toujours avoir des collations prêtes, là, des fruits coupés, des choses comme ça dans le frigo. Comme ça, ben, tu peux le prendre facilement. T'allaites, tu vas déjeuner par la suite, mm-hmm. etc. OK? Fait qu'il y a une question de ne pas avoir peur de manger plus. On va en parler après la pause, là, des changements au niveau du poids qui peuvent arriver pendant la grossesse. Le poids qu'on veut peut-être perdre après la grossesse, la tentation serait peut-être là d'aller faire un régime amaigrissant pour essayer de perdre ce poids-là le plus rapidement possible. Totalement déconseillé. Okay? Tout ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un gros manque d'énergie, tu vas être fatigué, ça va être encore plus difficile au niveau de l'allaitement. C'est pas ça qu'on veut. On veut s'assurer que tu as tous les nutriments que tu as besoin pour nourrir ce bébé-là. Fait qu'on met les régimes de côté. Ça va se faire naturellement, mais revenez après la pause parce qu'on en parle.
Ouais.
OK?
Ouais.
Fait que ça, je voulais quand même mettre un point là-dessus, que c'est important d'écouter notre faim. OK? C'est la meilleure chose à faire.
Puis j'adore que tu dises ça pour la kinésiologue en moi. Là, je veux parler de la kinésiologie parce que si on diminue l'apport calorique parce qu'on veut maigrir, non seulement on va être fatigué, mais on n'aura plus l'énergie pour se déplacer, faire de l'activité physique. Et déjà qu'enceinte, on perd beaucoup de masse musculaire, de différentes parties du corps, surtout la chaîne postérieure, des membres inférieurs. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour refaire le corps, il faut reprendre l'activité physique graduelle. Il va y avoir un épisode juste sur ça, ne vous inquiétez pas.
Ah, j'ai hâte.
Mais ouais, c'est tellement important d'avoir une énergie au niveau calorique qui rentre pour pouvoir nous permettre d'en dépenser. Fait que ça fait tellement de sens. Puis justement, pour s'assurer que l'allaitement, ben, on puisse continuer à nourrir notre bébé, ce qui est quand même très important. Mm-hmm. Avant qu'on parle de l'alimentation au niveau du bébé dans l'allaitement, je voudrais juste qu'on boucle le nouveau mythe alimentaire chez la femme enceinte lorsqu'on allaite.
Oui, tu t'es parti dans mes calories, moi, là.
Non, mais c'est super important, mais je veux juste terminer cette partie-là avant qu'on rentre après la pause avec le bébé. J'ai tellement entendu, fais attention à ce que tu manges quand tu allaites, par exemple. Évite tout ce qui est chou. Et là, je me rappelle, toute ma vie, ma mère mère qui me dit « Faut vraiment pas que tu manges de choux. » Ma mère, elle me disait « J'espère que t'as pas mangé de choux. T'sais, c'est vraiment important quand t'allaites, tu fais attention. T'sais, les brocolis, choux-fleurs, etc. Choux de Bruxelles. » Et là, je me suis mis à regarder Simon vraiment avec des gros yeux. Parce que comme je viens de manger une salade de choux sur genre, mon
avec
jour
des brocolis,
2.
Puis...
jour 2 de naissance de Clara, puis j'allais. Fait que là, ça a été comme un défi de départir. Qu'est-ce qui est vrai du faux? Est-ce que on a des restrictions lorsqu'on allait?
Au niveau du chou, des oignons, les mets épicés aussi qui reviennent souvent, non. Okay? Okay. Longtemps, les gens pensaient que ça causait les coliques. Vraiment pas. Okay? Fait qu'en fait, la femme qui allait a même moins de restrictions que la femme pendant la grossesse. Fait que, tu sais, tout ce que je disais au niveau du sushi, les viandes un petit peu moins...
Ça disparaît.
Ça disparaît. Okay? Il y a certaines choses qu'on veut continuer à faire attention, entre autres la caféine. OK, fait qu'on veut essayer encore de se limiter à 300 mg et moins, fait qu'à peu près 2 tasses de café par jour. Il y a aussi le poisson. Fait que le poisson, les gros poissons, comme je disais tantôt, ceux qui ont un petit peu plus de mercure, les restrictions sont les mêmes. Fait que là, on va continuer à faire attention avec ça. L'alcool, je pense que tu vas peut-être en parler là, pendant ton podcast sur ça. Mais bon, il y a certaines choses à faire attention. On peut en prendre un petit peu rapidement si on conseille 2 à 3 heures. Entre chaque consommation. Fait que si tu prends une consommation, il faut que tu attendes 2 à 3 heures pour que ça passe dans ton système avant d'allaiter. Puis ils conseillent de boire de l'eau tout de suite après chaque consommation d'alcool, mais je ne rentrerai pas trop dans les détails. Fait qu'il y a encore certaines petites restrictions, mais généralement, on peut recommencer à manger de façon un petit peu plus régulière, là, sans les restrictions qu'on avait tantôt. Ce que je voulais aussi mentionner, parce que j'ai trouvé ça intéressant, des fois, les femmes vont faire attention à certains aliments comme les arachides, le soya, des aliments qui sont plus connus comme étant des allergènes, okay, où les gens ont un petit peu plus tendance à avoir des allergies à ce type d'aliments-là. Il n'y a aucune preuve que de limiter ces aliments-là pendant la grossesse ni pendant l'allaitement aiderait ou donnerait une allergie alimentaire au bébé. Il n'y a absolument aucun lien, même que ça peut être dangereux, si on veut, entre guillemets, dans le sens où si on restreint trop notre alimentation, mais là, on peut développer des carences, des choses comme ça. OK? Fait qu'à ce niveau-là, c'est faux, malheureusement. Il n'y a pas de façon de contrôler là, si mon bébé va développer une allergie ou non. Fait qu'on conseillait de libérer là, à ce niveau-là aussi.
Alors, on recommence à manger avec la fameuse femme qui vient d'accoucher, qui mange ses sushis, l'image qu'on voit, là, avec son verre de vin, tout ça, celle qui allait pas, bien sûr. Ah ben, merci, ça fait le tour au niveau de l'allaitement de la femme. On fait une courte pause et après, on se retrouve pour parler de l'allaitement, mais au niveau bébé, on va parler de poids, mais aussi d'amour de soi, d'estime de soi, après la pause. On s'arrête le temps d'une courte pause dans laquelle j'ai le bonheur de vous présenter et de vous inviter à joindre la communauté gratuite de Maman Sereine, un groupe de femmes, futures mamans ou pas, qui viennent ensemble connecter pour s'offrir soit des ressources, de la compassion, de l'écoute, des conseils, mais aussi peut-être des réponses d'experts pour pouvoir s'entraider à vivre la maternité. C'est quelque chose un projet que je convoite, que je chouchoute, que je couve et que je berce dans moi depuis le début de ma maternité parce que j'ai eu la chance de, avec ma grande communauté d'Instagram puis des groupes Facebook, de connecter avec des femmes qui s'entraident à vivre toutes les étapes si grande et perturbante soit-elle, parce qu'on parle beaucoup de matrescence, hein, qui est comme autant de grands changements que l'adolescence, mais chez une femme qui devient mère. Et pour moi, le choc du postpartum et de la matrescence a tellement été adouci par de conseils, de l'amour, de la compassion, de la bienveillance d'un groupe tellement grand de femmes à travers le monde que je me suis dit, je ne peux pas garder ce privilège d'être entourée et soutenue parce que j'ai une belle communauté Instagram. Je veux l'ouvrir à toutes les femmes qui veulent connecter ensemble pour s'entraider, s'écouter, s'aimer, mais aussi avoir des réponses pertinentes d'experts à leurs questions. C'est là qu'est née l'idée du groupe et de la communauté Maman Sereine dans lequel je vais inviter les invités du podcast à venir avec moi dans la communauté, répondre à vos questions. C'est un peu comme un after show de chaque épisode de podcast. La communauté est gratuite pour l'instant. Alors, pour toutes celles qui veulent joindre la communauté, je vais mettre le lien du groupe en commentaire de l'épisode. Venez nous voir, la communauté de Maman Sereine, et venez connecter avec des femmes extraordinaires. Venez vous ressourcer, aller chercher plein de conseils, d'amour, de soutien, puis de réponses à vos questions par des experts invités. tout ça gratuitement dans ma communauté des mamans sereines. J'ai hâte de vous y retrouver et de vous y bercer avec autant d'amour et de sérénité que vous le méritez. Alors, on se revoit de l'autre côté. Bonne suite d'épisode! Nous sommes de retour et maintenant, on va poursuivre avec l'allaitement, mais du point de vue bébé. Parce qu'on va en parler dans le podcast, là, vous allez voir, il y a un podcast juste sur l'allaitement avec la marraine d'allaitement, mais c'est quand même intéressant que tu apportais dans ta signature de l'alimentation intuitive la façon déjà d'observer un nourrisson qui se nourrit quand il le désire, et ça, même si c'est irrégulier, tu voulais nous partager une approche de déjà comment observer, peut-être même apprendre de nos bébés.
Oui. Donc, c'est super intéressant quand on commence à observer un bébé. On le sait quand il a faim. On l'apprend de plus en plus avec les semaines, mais le cri est quand même assez particulier. On finit par reconnaître le bébé là, qui est en train de nous dire que hey, j'ai mon signal de faim puis c'est le temps que je mange. Et on le sait quand il a fini aussi, là, il va repousser le sein, tourner la tête, des choses comme ça. C'est assez clair que le bébé, lui, il est capable de reconnaître son signal de faim et son signal de satiété. Et c'est tout à l'honneur si on peut le respecter pour le bébé. Et même, comme tu dis, apprendre à le faire nous-mêmes. Donc, commencer à apprendre justement à moins suivre un horaire strict d'alimentation pour nous et de se laisser guider un petit peu plus par nos signaux de faim. « Ah, j'ai faim! » Ben finalement, j'ai faim à 8h30 versus 8h où je mange tout le temps mon déjeuner. Ben OK, je vais attendre la demi-heure de plus pour manger. Puis même s'il me reste des aliments dans mon assiette, ben, hey, mon corps me dit que je suis à satiété, alors je peux en laisser, puis au pire, je remangerai plus tard quand j'ai faim de nouveau. OK? Fait que je pense que c'est beau de le voir chez le bébé, puis ça peut rappeler à la mère qui est peut-être déconnectée depuis des années de ces signaux-là que, oh mon Dieu, le corps est magique, là. Le corps est intelligent, il y en a des signaux, OK? Et c'est aussi, je vous dirais, important de les respecter chez le bébé. C'est moins populaire maintenant, mais ce fut assez populaire où on donnait un horaire d'allaitement aux mères. Ils devaient allaiter à une distance d'heure précise. Ah, ouais. Fait que ça déconnectait le bébé, justement, là, de ses signaux. Fait que, merveilleux si on le fait moins aujourd'hui. On est plus en lien avec quand le bébé demande de se nourrir. Mais de faire la même chose pour nous, je pense que ça peut être intéressant. Là.
Vraiment. Puis ça glisse vers le prochain sujet qui est, naturellement, on va prendre du poids avec la grossesse. Et là, par la suite aussi, on veut reprendre un petit peu là, un poids qu'on avait là, avant, lorsqu'on a accouché, on se dit « OK, ben, je veux retrouver ». Donc, on prend du poids, et éventuellement, on en perd aussi naturellement. Mais tout ça, est-ce qu'on peut le faire en suivant notre alimentation intuitive? Est-ce qu'en apprenant justement de nos enfants à boire, à manger, quand le signal est là, de retrouver cette connexion-là, peut nous aider à trouver un poids santé? J'aimerais ça qu'on rouvre le grand univers de la prise et la perte de poids à travers la maternité.
Oui. Bon, fait que première chose que je veux sortir, je vais rentrer dans les chiffres un peu là, OK? J'ai vu une statistique, puis honnêtement, ça m'a fait de la peine, qui disait qu'il y avait 70 % des femmes enceintes qui craignent ne pas reprendre leur poids par la suite. Fait que ça veut dire que juste 30 % ou 3 femmes sur 10 qui commencent leur grossesse sont comme heureuses, ils sont confiantes qu'ils vont pouvoir perdre le pas par la suite, OK? Fait que je pense que c'est le temps d'un petit peu remettre les horloges à l'heure, comme on dit. En fait, OK, il y a une femme sur deux qui, à l'intérieur d'un an, va avoir retrouvé son poids pré-grossesse. OK? C'est quand même 50 %. Moi, si j'écoute les femmes autour de moi, je pensais qu'il n'y en a aucune, là, honnêtement. Ouais, ouais. Mais c'est une femme sur deux qui va naturellement, sans avoir fait de régime, sans s'être restreinte particulièrement, va retrouver son poids après un an. Puis il y aurait seulement une femme sur quatre là, qui garderait un 10 livres et plus après.
Une femme sur quatre?
Oui.
Bon.
C'est quand même un 25 %, mais on s'entend que ça veut dire qu'il y a 75 % des femmes qui vont éventuellement, vraiment à l'intérieur de 3 ans, là, si je me rappelle bien les statistiques, retrouver leur poids. Là. OK? Fait que ça, j'ai trouvé ça rassurant en tant que femme. Puis je pense que si tout le monde peut l'entendre aussi, ça peut rassurer également. Puis encore une fois, c'est sans faire de restrictions malsaines au niveau de l'alimentation. Comme on disait, on a besoin de plus d'énergie, surtout quand on allaite. C'est pas le temps là, de se restreindre. Et les statistiques sont pour les femmes qui allaitent et celles qui n'allaitent pas. Okay? Mmh. Fait que c'est vrai que ça va aider à perdre le poids en général quand on allait, mais le 50% des femmes à l'intérieur d'un an, ça l'incluait les femmes qui n'avaient pas allaité. Mmh. Okay? Fait que ça, je pense que c'est important de le savoir. Maintenant, de comprendre où est-ce que le poids est distribué sur le corps pendant la grossesse et à quel moment, je pense que ça peut éclairer certaines choses aussi. Là, arrête-moi, Charline, si je m'en vais trop dans les détails. Là. Non, parfait.
Moi, ça m'a rassurée. Je suis allée lire sur ça puis j'avais trouvé ça extraordinaire.
Ben moi aussi. T'sais, j'étais pas au courant avant de faire mes recherches pour le podcast aujourd'hui. Puis maintenant, en fait, ça met les choses sous un nouvel angle, honnêtement. Mmh. Fait que je pense que je vais commencer par les trimestres. Fait qu'au premier trimestre, les femmes vont prendre en général 1 à 5 livres, là. OK? Fait qu'on voit pas une grosse différence. Puis des fois même, les femmes vont perdre un petit peu de poids à cause des nausées, ce genre de choses-là, mmh. et c'est tout à fait normal. Ils finissent par regagner le poids qu'ils sont supposés de gagner. OK? Dans le deuxième ou troisième trimestre, on parle de 0.5 à 1 livre par semaine. OK? Fait que c'est pas si énorme. Mmh. OK? Combien de poids il faut gagner, là, je veux pas trop rentrer dans les IMC, là, mais si on dit une femme en poids normal, on parle d'entre 25 à 35 livres environ, là, qu'on peut s'attendre à gagner pour une grossesse qui est pas des jumeaux, là, okay? Mm-hmm. Fait qu'une grossesse avec un seul enfant. C'est sûr que si t'es un petit peu plus petite avant de commencer ta grossesse, on va conseiller plus de poids. Si on est un petit peu plus lourde, mais on va conseiller de prendre un petit peu moins de poids, fait que c'est quand même... cas par cas, là, si mm-hmm. on veut, mais jamais, jamais, c'est conseillé de faire un régime pendant ta grossesse, OK? Même si tu es classé dans une obésité ou quelque chose comme ça, on veut quand même que la femme se nourrisse bien, puis tu as quand même du poids à prendre, OK? Mm-hmm. C'est juste que ça va peut-être être un petit peu moins que la femme qui a un poids normal au début, OK? Mm-hmm. Ceci dit, où est-ce que le poids se place? Mm-hmm. C'est là que ça devient intéressant. Fait qu'on a 35 à 40 % du poids. Fait que pour madame tout le monde, là, okay, on parle d'à peu près 11 livres, okay, qui est le volume de sang qui augmente. Okay? Fait que le volume sanguin augmente pour la femme. Elle doit en donner à son bébé aussi. D'où l'importance d'avoir plus de fer, okay, dans les suppléments, ce genre de choses-là. Au niveau du placenta, l'utérus, le liquide amniotique aussi. Fait que ça, c'est un 11 livres. Okay? Fait qu'à peu près un 40 %. Après ça, j'ai à peu près un 8 livres pour le fœtus. Mm-hmm. OK, c'est sûr, ça va varier, mm-hmm. là, tout dépendant du bébé. J'ai une livre qui est pour le sein.
OK, oui.
OK, oui. Qui se développe, OK.
Une livre par sein, moi.
Une livre par sein. Fait que 2 livres, peut-être, dans certains cas. Puis après ça, j'ai à peu près un 8 livres. OK, fait qu'environ 30 %, un petit peu moins de 30 %, qui est de la graisse accumulée. Bon. OK? Puis cette graisse-là, c'est une réserve d'énergie pour la mère et pour le bébé. Et elle va être utilisée aussi pendant l'allaitement. OK? Fait que 8 livres. On s'entend-tu que j'ai déjà pris 8 livres à l'intérieur d'une année, là?
Ben oui.
Ça m'arrive, puis des fois, je l'ai perdu, puis etc.
T'es allé certaine... en croisière une semaine, et tu voilà. prends 8 livres, puis tu le repars après, ouais. là. Ouais.
Fait que de le voir comme ça versus le 25 à 35 livres, que ouais. tu dis que en fait, de graisse, là, c'est juste 8 livres, ouh! Ça calme!
Mais oui, parce que moi, j'ai toujours entendu, ben, je sais pas, mon mère dire « Ah, j'ai pris 30 livres à toi, j'ai pris 25 livres à tel enfant. Ouais. » Tout ça, je me dis « Mon Dieu, t'accumules 30 livres par ouais. grossesse, ouais. tu deviens énorme au bout de 2-3 enfants. Ouais. » Mais non, parce que finalement, quand que le bébé sort, quand ouais. que le volume sanguin se replace, quand, ouais. quand que l'allaitement aussi commence son train, ou juste quand on retrouve notre beat de vie aussi, ouais. ben ça se replace. Puis finalement, on dit une moyenne de 8 livres. Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus, mais ouais. ça se résorbe quand même assez naturellement par exact. La suite lorsque le corps revient actif, lorsqu'on reprend notre beat de ouais. vie tranquillement. Je trouve ça très apaisant d'entendre ça. Je pense que ça rassure aussi plusieurs femmes qui craignent de prendre du poids avec la grossesse.
Ouais. Ouais, puis, tu sais, je pense que les mythes qu'on entendait de manger deux fois plus, là, je pense que ça l'entretient un petit peu, cette crainte que oh, je vais prendre du poids, puis il va falloir que je mange full. On se calme, là, tu sais, on n'est pas rentré dans combien il faut manger de plus pendant la grossesse, mais tu sais, si j'en parle maintenant rapidement, le premier trimestre, il n'y a pas de changement au niveau des apports caloriques, vraiment, là, on parle de peut-être une centaine de calories de plus. Okay? 100 calories, c'est une cuillère de beurre d'arachide.
C'est ça, une pomme, okay. une cuillère
de voilà, OK, de plus pendant le premier trimestre. Le deuxième, c'est autour de 340 là, par femme, de plus par jour. Fait que ça, c'est une grosse collation ou un très petit repas là, de plus. Puis dans le troisième, jusqu'à la fin, on parle de 450 calories de plus, là. Pas que du 350, 450 de plus que ta normale avant.
Ah, c'est bon ça, ouais.
Fait que c'est pas des quantités énormes, là. Ouais. On s'entend que tu manges une poutine, puis c'est plus que ça, là, OK? Mm. Fait que de tout remettre ça en perspective, je pense que c'est important. Puis oui, j'espère qu'on vous rassure, là, en disant ça, qu'il y a plus de chances que pas que tu retrouves ton poids à l'intérieur de l'année, mm-hmm. OK? On parlait d'allaitement tantôt. Mm-hmm. Fait que je pense que c'est important de le dire. Les femmes qui allaitent, ils ont habituellement un petit peu plus de facilité à perdre le poids. OK, ça va un petit peu plus rapidement. Ceci dit, ça prend au moins 6 semaines avant que la taille de l'utérus puis le volume du sang revienne à la normale. Mm-hmm. OK, fait que tu sais que ton volume sanguin qui va augmenter, c'est au moins 6 semaines que tu peux pas nécessairement t'attendre à perdre beaucoup de poids à ce moment-là. OK, fait que ça va prendre un petit peu de temps. Ensuite, ils disent si tu allaites, ça fait aussi des contractions au niveau de l'utérus. Ce qui aide à reprendre la forme du ventre.
Je le sentais, ça. C'est comme des petites contractions pendant qu'elle boit ou même après. Tu sens le travail de l'utérus qui... Ouais.
Puis définitivement, ça tire du jus, carrément, là, quand t'allaites. L'énergie sort pour nourrir le bébé. Fait qu'il y a une grande dépense énergétique aussi qui se fait à ce niveau-là. Fait que oui, tu manges plus, mais tu dépenses tellement en allaitant que le poids, en général, va revenir un petit peu plus rapidement à la normale de la femme quand elle allaite versus une femme qui déciderait de ne pas le faire.
J'aime ça. Puis, quel est ton mot peut-être, self-love, self-esteem, pour les femmes qui, justement, veulent perdre du poids puis qui sont un peu perturbées par leur image corporelle? Dire, OK, ben là, tu sais, il y a le blues un peu du postpartum de dire, comme, ben là, je suis une mère, je veux retrouver mon corps de femme, je me sens désirable. On va avoir un épisode de podcast juste sur la sexualité, ne vous inquiétez pas, le couple et tout ça. Mais peut-être dans tes mots de nutritionniste, quel serait, comme pour conclure l'épisode, peut-être un mot doux pour les femmes qui se mettent beaucoup de pression par rapport à leur image, leur poids, à travers le plus grand miracle de la vie, qui est de créer la vie, de donner naissance? Pour moi, c'est extraordinaire de soutenir aussi la survie avec l'allaitement, par exemple. On se met une pression en plus d'avoir le corps parfait, comme on voit dans les magazines. Ouais. Quel est ton mot, peut-être, pour nous rassurer?
Mais je commencerai par la patience. T'sais, ton corps vient de vivre quelque chose de quand même assez incroyable. Mm-hmm. Okay, il y a eu beaucoup de changements. Donne-toi le temps aussi de te retrouver dans ton nouveau corps, que oui, il a changé, mais de te dire qu'en lui donnant le temps, en prenant soin, en mangeant de façon équilibrée, commencer à bouger, tu en parlais là, en tant que kinésiologue, commencer à bouger quand tu peux, de toute façon tranquillement, mais de reprendre des habitudes saines, de te permettre de te reposer. Et de commencer à écouter tes signaux de faim et de satiété pour vrai, peut-être pour la première fois de ta vie. De me demander, hey, j'ai-tu vraiment faim ou je mange parce que je m'ennuie? Ou je mange parce que je suis toute seule à la maison, je ne travaille pas, puis mon chum il est parti, lui, puis moi je suis à la maison avec le bébé. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait nourrir mon besoin versus de l'alimentation ou un aliment, là, si on veut, dans le moment, parce que la faim physique n'est pas réellement là, mais j'ai une faim pour autre chose. Puis ensuite, une fois que j'ai mangé, peut-être me demander, est-ce que je suis pleine? Oui, je passe à autre chose. Fait que, honnêtement, je dirais un mot doux, self-love, ça serait, maintenant que t'es maman, prends soin de toi 2 fois plus qu'avant, parce que c'est le classique, mais tu prends soin de quelqu'un d'autre aussi, il faut mettre le masque sur nous en premier, là, dans l'avion, c'est un peu ça, là. Si tu prends soin de toi, ton corps, il va te remercier.
Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Puis, tu sais, encore là, je reviens avec l'apport du papa ou du partenaire. Le rôle du papa, c'est d'aider maman à bien se nourrir pour que maman puisse nourrir bébé. Moi, c'est comme ça que je le voyais. C'est comme ça aussi que Simon l'a vu. Puis ça a tellement changé notre perspective de son apport. Parce que des fois, les papas sont impuissants. Quand puis maman allait, puis bébé pleure, puis c'est que maman est fatiguée. Mais la meilleure façon d'aider une mère, c'est encore là, je reviens, elle m'a dit apporter de la nourriture. C'est tellement plus facile de bien manger quand c'est dans le frigo, c'est disponible, c'est accessible. Se faire des cadeaux comme revenir de l'épicerie, puis quand que maman allait, que papa lave les légumes, les coupe, fait des trempettes pour la semaine. C'est tellement des beaux cadeaux. Quand que la famille vient nous rendre visite, parce qu'on est excité de voir le bébé, d'en profiter pour apporter de la nourriture, à mettre au congélateur. C'est des beaux cadeaux aussi à offrir, vraiment pour faciliter justement que la mère n'aille pas à se soucier de bien manger. Moi, je me dis, mange ce qui est accessible, qui est bon pour toi, et le poids va s'ajuster. Le corps 100%. Est tellement bien fait. Je pensais trouver ça difficile, le retour de la grossesse. Puis la seule fois que j'ai pleuré, qui est la première fois que j'ai pleuré après que j'ai accouché, j'étais dans la douche. Puis c'est le moment où est-ce que j'ai mis mes mains sur mon ventre vide et que j'ai eu de la gratitude pour moi. Fait que j'ai même pas pensé à « Hey, mon corps est mou ». Non, j'ai juste pleuré de reconnaissance. Puis j'étais toute seule dans la douche, puis tu saignes encore dans les premiers jours, là. Et j'ai mis mes mains sur mon ventre, puis je me suis mis à pleurer. Puis je suis revenue après dans la chambre avec mon conjoint qui était avec Clara. Puis je me suis couchée à côté, puis j'ai dit « J'ai pleuré dans la douche ». Puis tu sais, avec toute la douceur de dire comme « N'inquiète pas, mon amour, je t'aime ça ». Puis j'étais comme « Non, non, mais c'est de gratitude pour mon corps ». Et si on mettait ça de nouvelle mode, au lieu que la jeune maman doit se complexer sur l'apparence de son corps, est-ce qu'on peut tomber dans la gratitude? Et petit mot peut-être, self-love pour l'entourage, pour aider la maman, de continuer à lui dire quand on la trouve rayonnante, comme quand elle était enceinte, de continuer à trouver quand elle est belle, quand elle, tu sais, à prendre du temps pour se maquiller, laisser, si ça veut aller magasiner, accompagner-la avec le bébé pour qu'elle puisse trouver des beaux vêtements, qu'elle ne se mette pas la pression de rentrer dans ses vieux vêtements, mais qu'au contraire, qu'elle puisse mettre des vêtements dans lesquels elle se sent belle, qu'elle se sent bien. Et là, je fais un beau clin d'œil à la boutique Mode Peace, qui est une friperie extraordinaire, qui offre des beaux vêtements de seconde main à prix tellement abordable. Tu vas te sentir belle, bien rayonnante, je trouve ça important. Et ça, ben c'est beau à dire. Et peut-être là, je parle de self-love pour terminer, mais une des choses qui m'a le plus touchée, c'est quand ma mère m'a vue pour la première fois après l'accouchement. C'était 5 jours après la naissance de Clara, parce que je voulais vraiment avoir ma bulle pour 5 jours. Elle est venue me voir et la première chose qu'elle a faite, c'est toucher mon ventre. C'est ce qu'on fait toutes à les femmes enceintes. On veut les voir, on veut toucher le ventre. Et quand le bébé est parti, c'est comme si on ne veut plus toucher le ventre, parce que lui, il est mou et gris, je sais pas trop, là. Mais la première chose que ma mère a faite, c'est qu'elle a touché mon ventre. Et là, j'ai compris l'importance que je devais mettre à mon ventre, au-delà de son apparence, de respecter. Vraiment, il y a comme eu un respect de mon ventre. Et jusqu'à ce jour, ben, je continue à l'avoir, de mettre ma main sur mon ventre, de continuer à flatter mon ventre, même s'il n'y a plus de bébé. Mon bébé m'a aidée à aimer mon ventre. Et maintenant, ben, je veux continuer cet amour-là parce que j'ai un respect immense sur la création que le corps peut donner. Donc, est-ce qu'on peut honorer, valoriser, prendre soin de son corps au-delà de le critiquer et d'y apporter des standards de beauté? C'était la note maman sereine sur le corps! Body positive, s'il vous plaît! Hey, merci infiniment pour cette heure extraordinaire qu'on a passée ensemble.
Merci, Charlène.
Tu es une nutritionniste que je continue de référer à toutes les gens qui viennent à moi avec des questions de nutrition et je vais mettre tes informations dans l'épisode du podcast.
Super.
Tu offres des appels découvertes gratuits à toutes les gens qui ont des questions, enceintes ou pas. Je vous réfère à Eva, 100%. Merci d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueillie aujourd'hui.
Merci d'avoir été avec nous. Si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager à tes amis ou même dans tes stories en identifiant Mouvement Épanouissement pour que je puisse te remercier personnellement. Si tu veux nous donner de l'amour, ça se fait en activant le 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou sur toute autre plateforme de balado-diffusion. Tu peux aussi nous écrire, envoyer des commentaires, ça nous fait plaisir de pouvoir vous lire, interagir avec vous. Et finalement, si tu veux aller plus loin, découvrir nos ateliers et nos services de consultation privée, tu peux visiter notre boutique au www.mouvementépanouissement.com/boutique. Avec joie, amour et sérénité, Charlène, alias Maman Sereine.